cœur, qui est vraiment pour ce temps-là. Nous vivons en ce moment le temps de Noël, et Noël, on se rappelle de la naissance de notre Sauveur, mais c'est un temps aussi de générosité. Et nous allons regarder un peu plus près tout ça. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce moment, pour ce privilège d'être au milieu de nos frères et sœurs. Merci parce que tu es au milieu de nous, car ta parole déclare que là où deux ou trois sont unis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci parce que tu nous as visités encore ce matin pendant ce moment où on tournait un culte favorable, où tu as manifesté un esprit de joie qui nous a remplis. Et nous voulons te dire merci. Nous voulons te montrer notre reconnaissance, Père. Parce que c'est des moments comme cela qui changent, qui brisent des jougs. C'est des moments comme cela, Seigneur, qui donnent un ton pour une nouvelle saison. Ainsi, nous voulons te dire merci. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous prépares nos cœurs afin de recevoir, afin d'entendre ta voix. Et Seigneur, rien de moi, mais tout de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est un message qui est assez parlant, parce que tout le monde est concerné. Le message, c'est la générosité, c'est le caractère de Dieu. Et je n'avais pas pensé au départ, mais en me soumettant à l'autorité, j'ai dit, mais avez-vous quelque chose, une orientation? Et il m'a écrit un texto, la générosité. J'ai dit, waouh, ok. Parce que, voyez-vous, dans le royaume de Dieu, nous n'avons pas les mêmes saisons que sur la terre. Là, on est à Noël, on pense aux cadeaux, au foie gras, tout ce qui va avec. On prépare des bons moments. Mais dans le royaume de Dieu, on n'est pas toujours dans les mêmes saisons. Donc je me suis demandé, Seigneur, est-ce que ce message est adapté? Parce que je ne vais pas voir la générosité de la même manière qu'on a toujours l'habitude de l'entendre. Et c'est peut-être le message que je vis, mais aussi le plus difficile à transmettre. Et pour la première fois, je prépare un message et je vous assure que jusqu'à ce matin, au moment de la prière, je n'étais pas sûr. Et pendant qu'on priait, le pasteur a fait une prière, il a dit, c'est une déclaration pour une nouvelle saison. Et là, j'ai compris que le message était adapté. Et je veux vous encourager à recevoir, à méditer. Il y aura beaucoup de passages bibliques parce que c'est un sujet qui est assez dense, mais qu'on pourra méditer sur toute l'année, dans nos vies, dans nos temps de prière personnelle. Dieu est un Dieu généreux. Comment le sait-on? On sait qu'il est généreux parce que la Bible nous dit, un des versets les plus connus, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc Dieu aime, donc il donne. Jusque-là, on est d'accord. Donc, on sait que Dieu voulait nous récupérer à ses côtés et qu'il devait payer le prix fort. Ça lui a coûté. Ça lui a coûté, pas du matériel, pas des émotions, mais ce qu'il avait, c'est-à-dire lui-même, son Fils unique. Donc on sait déjà que le caractère de Dieu, c'est le don, c'est la générosité. Il prend plaisir à donner à ses enfants. Il prend plaisir à nous voir donner, à nous voir lui ressembler. Nous sommes créés à son image, à sa ressemblance, il est dit dans Genèse 1. Ça veut dire que Dieu attend de nous qu'on lui ressemble. Et voilà pourquoi nous a envoyé Jésus-Christ, afin qu'on puisse avoir un modèle, un sauveur, quelqu'un qui nous ramène, qui nous rapproche de Dieu, qui nous rapproche de la manière dont Dieu fonctionne. Et nous voyons que Jésus grandit et puis il est généreux dans son temps. Dès qu'il arrive vers l'âge de 12 ans, il reste derrière dans le temple parce qu'il veut partager sa connaissance. Il est généreux, il veut donner. Il ne peut pas s'empêcher de donner. Ses parents sont partis, mais lui, il est resté. Au bout d'un moment, ils disent, mais il est où? Il retourne. Il était dans la synagogue en train de donner. On est d'accord jusque-là. Il se rapproche de ce temps de ministère et ils vont à un mariage dans Jean 2. on parle du mariage des noces de Cana, et le vin vient à manquer. Dans la culture hébraïque, le mariage, ce n'était pas une journée, ce n'était pas 40-50 personnes. Aujourd'hui, oui. Moi, je me suis marié, on était 110. Et pour nous, en Afrique, c'est déjà attendu, parce que c'est normalement 1000 personnes. Je suis allé au mariage de mon frère après, c'était mon grand frère, c'était 700 personnes. Et il faut gérer, il faut être à la hauteur. Donc, on arrive au mariage, plus de vin. Ça durait 5 jours, 6 jours, ça dépendait des familles et de leurs moyens. Plus ils avaient de moyens, plus ça durait. Et il arrive un moment, il n'y a plus de vin. Et la mère de Jésus qui voit, il dit, allez le voir. Et puis, il vient et dit, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Pourtant, c'est sa mère. Parce que son temps n'était pas arrivé. Mais son caractère, sa nature, c'était la générosité. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit, remplissez d'eau, et puis puisez. Et là, il dit, faites goûter à l'ordonnateur du mariage. Et qu'est-ce qui se passe? Ils disent, mais il est bon. Ils le font goûter à l'époux. Et on lui dit, mais d'habitude, on prend le bon vin, on le boit. Et puis quand ça a un peu tourné la tête, que les pourcentages ont un peu tourné la tête, on amène la piquette. Mais toi, tu as donné le meilleur, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il a gardé la cadence de l'excellence, de ce qui était le meilleur jusqu'au bout. Bien sûr qu'il a raison. Il est excellent, il est parfait. Il a donné le meilleur. C'est-à-dire que même quand ce n'était pas son temps, il a quand même donné le meilleur. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est ce que Jésus est. Il est généreux. Et il nous montre l'exemple afin qu'on soit généreux. Généreux en temps, généreux en amour, généreux en finance, généreux. Qu'on ait ce caractère, qu'on cherche toujours le meilleur pour les autres. Et quand on arrive vers les fêtes de Noël, nous sommes tous en train de courir, chercher des cadeaux, etc. Et puis, des fois, on se dit, oh non, mais est-ce que je vais pouvoir faire ça, etc. On court partout. Pourquoi? Parce qu'on veut montrer aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Donc quand on aime, on donne. À un autre moment, dans Jean 6, Jésus va avec ses disciples, et puis à un moment il lève la tête, il voit la foule qui vient vers lui. Donc il regarde la foule et puis il dit à ses disciples, allez leur donner à manger. Là, les disciples regardent, ils disent, mais comment on va faire? C'est-à-dire que si on cherche à acheter avec les 200 deniers qu'on a, on ne pourrait pas nourrir tout le monde. Il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et Jésus dit ça à ses disciples, pourquoi? Parce qu'il savait qu'il voulait tester, il voulait voir quelle était leur réaction. Et puis il y en a un qui vient qui dit, tu sais Jésus, il y a un gamin ici avec 5 pains et 2 poissons. Il avait peut-être une révélation que les autres n'avaient pas. Lundi, on n'a pas les moyens de donner à manger à tout le monde. Et puis, un des disciples vient et il dit, il y a un gamin qui a son lunchbox. Mettons les choses en contexte. Son lunchbox, c'est-à-dire quelque chose que le petit pouvait porter. Ce n'était pas 10 baguettes, c'est quelques morceaux de pain et 2 poissons. 200 deniers, ça achetait bien plus que 5 pains et 2 poissons. Et il y a un qui vient qui dit, le petit a. Et là, Jésus prend, il rend grâce, et il ordonne à tout le monde de s'asseoir. Jésus aime l'ordre. Et il multiplie le pain et le poisson. Et on verra ça un peu plus tard, quelle était la récompense de ce petit garçon. Il a eu beaucoup plus à ramener à la maison. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions lui ressembler. Il nous assure dans Actes 20, 35, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Est-ce que c'est vrai ça? C'est la Bible qui le dit, donc c'est vrai. Même si on ne sent pas toujours ça, mais c'est vrai, n'est-ce pas? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. J'aime donner. J'aime tellement donner que lorsque je cherchais, juste avant mon mariage, j'ai dit à Dieu, je ne sais pas si je vous l'ai dit, peut-être. J'ai dit à Dieu, je veux une femme qui aime donner. Si elle n'aime pas donner, je n'en veux pas. Parce que ça va me créer des problèmes. Pour donner un exemple, on en parlait tout à l'heure avec les prémices, mais 3 mois avant mon mariage, je n'avais rien pour le mariage. J'ai raconté à certains. Je n'avais rien. Et je fais mon premier stage et j'étais dans une agence immobilière et je vends un bien. Dieu me fait grâce, j'arrive à vendre un bien qui n'a pas été vendu pendant 2 ans, ça traînait dans l'agence. Problème de dispute en succession, etc. Moi, qu'est-ce que je fais? Je dis, ah bon, ben donnez-moi ça, je vais y aller. Je suis allé là-bas, j'ai pris autorité sur le terrain, j'ai bombardé. Et puis, ils se sont mis d'accord, même pour un prix inférieur. Alors que ça faisait 2 ans, ça se déchirait. Et quand je reçois ma commission de stagiaire, je m'attendais à peut-être, je sais pas, 800 euros, je reçois 1 000 euros. Et là, je dis, Seigneur, je t'avais fait une promesse, c'est vrai. Je t'avais dit que mon premier salaire, là, on allait s'en occuper et que j'allais vraiment t'honorer et te dire merci. Et j'avais fait une promesse de 700 euros. Et j'avais un mariage dans 3 mois. On en reviendra tout à l'heure. Et du coup, en étudiant tout ça, le Seigneur m'a mis à cœur de partager certains principes sur les différents types de dons. Je ne vais pas aller sur la générosité du temps, sauf pour certains. Il y a des gens qui n'ont pas du tout le temps. Quand je vois par exemple le pasteur Rodrigue, il n'a pas le temps. Il est tout le temps en train de courir partout. Vrai ou faux? Tout le temps. Je sais que quand il me donne 10 minutes, ou même il m'appelle 5 minutes, je chéris ces moments. Parce que je sais qu'il a pris sur lui et qu'il a mis quelque chose, il a fait un choix. Et j'honore ça. Donc c'est peut-être pas le sujet, mais c'est quelque chose à garder en mémoire. Quand quelqu'un n'a pas le temps et qu'il t'accorde du temps, honore ça. Honore ça. Dernièrement, quand le prophète Bruno Picard était ici, il m'a dit... Je vais prendre du temps avec toi. Je dis ok, j'étais surpris. Parce que moi, mon travail, c'est aller les chercher à l'aéroport, les conduire un peu partout, les emmener là. Moi, déjà, c'est super. Comprenez? Et là, il me dit, je vais manger du riz. Je dis, tu manges du riz? Moi, j'avais tout préparé, les restaurants, viande, machin. Il me dit, j'ai envie de manger du riz. Ça fait longtemps que je ne suis pas à La Réunion. Et ça fait 14 jours, j'ai envie de riz. Va chercher du riz à Montpellier dans un restaurant. Et puis tu cherches les restaurants, tu dis comment je peux l'honorer, comment je peux... Celui-là, il est un peu bizarre, donc on va aller là-bas, etc. Et puis on a passé une bonne partie de la journée ensemble à marcher et à échanger. Et je sais que ce monsieur-là n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Donc je suis conscient de ce temps. Chaque minute que quelqu'un prend. Mais ce n'est pas le sujet de ce matin. On va s'attaquer au sujet financier, les finances. Parce que le Seigneur veut briser une certaine pensée. Une pensée, je dirais, de misère. Un esprit de misère qui rôde autour de l'Église. Et ça ne veut pas dire qu'on va tous être millionnaires, c'est pas ça. Ça veut dire qu'on va avoir accès aux richesses de Dieu. Il n'y aura pas de manque parce qu'on a accès. Je me rappelle quand j'ai quitté la maison et que je suis venu faire mes études en France avec mon petit frère sur le dos et mon père m'a fait un chèque. Il m'a dit, ben, bon courage. Je sentais que je n'avais plus accès à sa ressource. C'est-à-dire, maintenant tu vas grandir, voilà, tu gères ça et puis on en reparle plus tard. Et je suis arrivé, premier loyer, première caution, tout ce que je ne savais même pas ce que c'était. Je payais seulement. Et puis au bout de 3 jours, zéro. Je dis, comment j'appelle? Comment j'avais jamais pensé que j'allais appeler mon père, dire, il n'y a pas d'argent. J'ai appris. Il m'a dit, n'oublie pas ce que je t'ai appris. La dîme. Et donc, on va regarder tous ces principes-là qui, moi, m'ont permis, alors c'est une expérience personnelle, mais tous ces principes que j'ai appris qui m'ont permis de regarder la vie différemment. On va regarder les différents types de dons qu'on trouve dans la Bible. Il y en a à peu près 4 que j'ai trouvés. Et le premier, les dîmes. Le grand sujet, les dîmes. Malachie 3:10. On entend parler. Certains sont contre, certains sont pour, etc. Moi, je dis, regarde la Bible. Et en parenthèse, ne croyez pas ce que les gens disent quand ils n'ont pas l'autorité de la parole. La parole est la vérité. Mesurez toutes les paroles qui viennent par rapport à la parole de Dieu. OK? Malachie 3:10, on va le lire. On va regarder le premier type de don. Malachie 3:10. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Alors, chaque don a une motivation. Lorsqu'on donne à Dieu, il y a toujours une motivation. Mais il y a aussi une promesse qui est attachée à ce don. Ici, le Seigneur dit au peuple, juste avant, vous m'avez trompé, etc. Et ils disent, mais en quoi t'avons-nous trompé? En quoi t'avons-nous volé? Il dit, dans les dîmes et les offrandes. Ça sous-entend que si Dieu dit cela, c'est que peut-être ça lui appartient. Peut-être, hein? Peut-être. Et il dit, voilà, si vous vous repentez et que vous revenez vers moi, venir vers Dieu, venir dans la présence de Dieu, venir vers Dieu. Entre parenthèses, dans le royaume de Dieu, un des principes, c'est qu'on ne vient jamais dans la présence d'un roi sans un cadeau. Juste comme ça, hein, je vous le dis. On ne vient jamais dans la présence d'un roi sans un cadeau. Vous allez voir la reine d'Angleterre, le roi d'Espagne, et le protocole demande votre cadeau. Parce que le cadeau mesure, donne la mesure de l'honneur que vous portez. Voilà pourquoi la reine de Sheba, quand elle est venue voir Salomon, elle a envoyé des conteneurs de cadeaux, d'or, de bois précieux, parce qu'elle voulait montrer l'honneur qu'elle avait. Et ce qu'elle pensait, croyait de ce qu'elle avait entendu de la sagesse de Salomon. Elle voulait avoir accès à la sagesse. Donc elle a envoyé un cadeau qui l'a précédé afin que Salomon prête attention à la personne qui venait. Et donc ici, la promesse, on la voit pour les dîmes. Premièrement, j'ouvre les fenêtres du ciel. La promesse, la motivation ici, c'est l'obéissance. On obéit tout simplement. Dieu nous demande, on obéit. La promesse qui est attachée à cette obéissance, c'est qu'il ouvre les fenêtres du ciel. Ça, c'est un des principes que j'ai appris très tôt dans ma vie, que j'ai vu mon père pratiquer toute sa vie, encore aujourd'hui. On pouvait des fois entendre certaines discussions quand il y avait des moments difficiles. Et puis on s'assied à côté de lui à l'église, on le voit sortir des billets, on dit, mais ce vieux-là, je dis, mais je ne comprends pas. Il dit qu'il n'y a pas, mais il donne tout ça. Pourquoi il donne autant? Pourquoi l'église, et il le faisait bien devant nous. Et on se posait des questions. Et puis on est passé par des moments difficiles, comme vous savez, je viens du Rwanda, etc. Et puis on passait des moments difficiles, il y avait plus de beaucoup de choses qu'on avait perdues là-bas. Mais nous, on était dans l'abondance, on n'était pas non plus, on n'a pas senti, si vous voulez, les crises, les moments de crise. Et mon père m'a dit, mais je suis quelqu'un qui, en anglais, on dit I'm a tither, je suis un donneur de dîmes, un dîmeur, je ne sais pas si on peut traduire. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'était quelque chose. Je ne sais pas s'il a déjà raté une dîme. Je ne sais pas. Parce que pour lui, avant d'acheter à manger, il donnait la dîme. Avant d'acheter à manger, de payer son loyer, il donnait la dîme. Moi, j'ai grandi comme ça. Donc, quand les moments difficiles arrivaient, il dit, hé. Premièrement, Dieu est sur le trône. Il n'a pas bougé. Donc, s'il n'a pas bougé, il est le même hier qu'aujourd'hui, éternellement. C'est bon? Ok, d'accord. Donc, ben, j'ai donné la dîme, on va lui dire, on va lui rappeler ce qu'il a dit. Tu ouvriras les fenêtres du ciel. Tu as dit ça, Seigneur. Moi, j'ai donné mes dîmes et mes offrandes. J'ai donné mes dîmes. Et il m'a expliqué ce qu'il m'a dit. Ma dîme est mon assurance tout risque. Mon assurance tout risque. Quand il achetait une voiture, cette voiture, elle tenait, je ne sais pas, des années. Les autres changeaient 5 fois de voiture. Sa voiture reste. Les peintures, on a l'impression que la maison, elle est neuve. Les autres, les voisins peignent tous les 3 jours, tous les 3 ans. Lui, la maison, elle ne bouge pas. La table, jamais cassée. Pourtant, il n'a pas acheté très cher. Il est venu ici dernièrement et je le vois, je dis, wow, il a porté son costume de mariage. On a l'impression qu'il est tout neuf, il ne s'use pas. Il me dit ça, c'est parce que celui qui dévore ne me touche pas. L'usure, ce n'est pas normal. Dans le monde, c'est normal. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas normal. Ça, c'est les promesses de la dîme. Souvent, on parle de la dîme, on dit Malachi, etc. On n'explique pas les promesses, on n'explique pas ce qui est attaché à ça. Et donc, des fois, les gens ne comprennent pas. Moi, j'ai commencé à donner la dîme sur mon argent de poche. Des fois, un jour, je dis à mon père, « Papa, mais tu nous dis que tu nous donnes, je ne sais pas moi, 30 euros, et avec ça, il faut qu'on achète nos t-shirts, nos machins. » Je dis, « Mais c'est quoi ça ?» Et quand un t-shirt coûte 5 euros et tu en achètes 2 dans l'année, 3 dans l'année, tu n'en restes plus rien. Et puis, tu dis, « Non, mais si tu veux manger à midi, tu peux manger avec aussi. » Tu regardes, tu dis, « Mais c'est à rallonge tes 30 euros, là. » Et il dit, mais si tu as un problème avec la dîme, avec l'argent de poche que tu as, donne la dîme de ce que tu veux. C'est un nouveau principe dans ma vie. Je dis, ah bon? Il dit, oui, fais confiance que Dieu honorera ta foi. Donne la dîme de ce que tu veux, et puis tu auras une augmentation peut-être. Je l'ai pris au mot. J'ai doublé ma dîme. J'ai rien dit à personne, ni à mes frères, ni à mon père. Dans les 4 mois qui ont suivi, il a doublé mon argent de poche. Il ne savait rien. Il ne savait rien. Donc moi, j'ai appris ça de la dîme. Et je pratique encore aujourd'hui. Je pourrais donner tellement d'exemples. La générosité. Ça commence par déjà honorer la parole de Dieu. Obéir à ses principes. Le ciel est ouvert, c'est la promesse. C'est l'assurance tout risque. Deuxième type de don, celui-là, il est moins connu, c'est les premiers fruits. Les prémices. Ils sont motivés par quoi? La générosité, tout simplement. Ça correspond à quoi? Quand on regarde dans la Bible, il y a à peu près 30 références sur les prémices, ou les premiers fruits. C'était souvent dans ce temps où l'agriculture était plus développée qu'aujourd'hui, parce qu'ils mangeaient vraiment bien, produits naturels. Et au fait, ce qui se passait, c'est que lorsque la saison, par exemple, des tomates arrivait et que l'agriculteur allait prendre, ou le paysan allait prendre ses tomates, les toutes premières tomates étaient pour Dieu. Les toutes premières. Pas besoin qu'il y en ait beaucoup, juste la première récolte, la toute première, les prémices, on les donnait à Dieu. Quelle est la motivation? La générosité. Quelle est la promesse derrière ça? La croissance, la confiance que Dieu nous donne pour les ressources. Dans Proverbe 3:9, il dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Et je disais tout à l'heure au pasteur, j'aime bien regarder des fois en anglais, et parce que de tout ton revenu, c'est pas tout à fait ça. C'est en anglais, dans le King James Version, on dit « Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. » Avec les prémices de tout ton surplus, de toute ta nouvelle croissance. Exemple, tu touches un salaire, tu as un salaire, 1500 euros, et le patron te fait une augmentation et tu passes à 1600 euros. Tu as 100 euros de plus. Dieu dit, emmène-moi ces 100 euros-là, donne-moi ça, et je vais maintenir l'action de croissance dans ta vie. J'ai pratiqué ça. Le premier chèque que j'ai reçu donc, quand j'étais stagiaire, je reçois donc 1000 euros. Je m'attendais à 800 euros. Et tout de suite, quand j'ai eu le chèque, je regarde, je dis, mais vous êtes sûr du montant? Ils me disent, oui, on voulait te dire merci. Je dis, waouh, 200 euros de plus. Première chose, je suis arrivé dans ma voiture, j'ai dit, Seigneur, que dois-je faire de ces 200 euros supplémentaires? Parce que ce n'était pas prévu. Il m'a dit, prémisse. Je dis, oui, mais Seigneur, prémisse, mais je me marie au mois de janvier. 1000 euros, ça peut aider. J'ai déjà fait les promesses de 700 euros. Si je donne 700 euros, 200 euros, je fais comment? Et le Seigneur me rappelle que j'avais activé cette promesse en donnant déjà par la foi 200 euros. Il me restait 500 euros. Donc je me dis, ok, il me restera 300 euros une fois que j'ai tout donné. Mais je n'ai pas encore donné la dîme dessus. Et ce soir-là, on avait des invités qui étaient venus visiter l'église où j'étais. Et pendant la prière, l'adoration, comme là, il y avait le feu, c'était comme là. Le Seigneur me dit, voilà pour qui sont ces 200 euros. Donne-les à mon serviteur qui est venu d'Argentine. Je dis, ok. Je dis, bon, 200 euros comme ça, bon, ok. Et le culte fini, je vais voir le pasteur, je lui dis, j'ai un don à faire aux invités et j'ai 200 euros à donner pour cet invité. Et là, il me dit, oui, mais pour tous les invités? Je dis, non, pour celui-là, là, lui. Il me dit, ok, je vais le voir. Et c'était une promesse parce que je n'avais pas encore encaissé le chèque. Ça, c'était tout frais. Et je lui dis, voilà, le Seigneur m'a demandé de te donner 200 euros. Le monsieur pleure et dit, tu sais, j'ai tout donné à Dieu. Alors, je viens d'une famille chrétienne, donc dire j'ai tout donné à Dieu, j'ai déjà entendu, mais je dois vérifier, parce que quand tu étais broke, tu n'avais rien, et tu laisses, tu n'as rien laissé vraiment. Donc dis-moi quel est le degré de ce que tu dis que j'ai laissé tout pour servir le Seigneur. Ce monsieur travaillait dans une grosse banque, il était responsable de plus de 3 pays et de tout l'Amérique latine. Donc j'ai dit, ah oui, là, oui, je comprends. Il dit, j'ai tout laissé pour servir Dieu. Je devais faire ce voyage et le Seigneur m'a dit, achète par la foi ce billet et je prendrai soin de toi. Et le premier signe qu'il a utilisé pour le montrer que Dieu allait prendre soin de lui, c'est qu'il m'a appelé, il m'a dit, donne-lui 200 euros. Quelle joie il y avait là-dedans. Quelle joie. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que ma prière, n'oubliez pas, c'était que je voulais une femme qui soit généreuse. Et ce n'est pas que j'avais des doutes, mais j'avais besoin d'une confirmation quand même. Je me marie dans 3 mois. On finit le culte, ma fiancée de ce moment, Christelle, elle vient me dire, tu sais, moi je ne suis pas comme toi, hein, mais j'essaye. Et le Seigneur m'a mis à cœur de donner 200 euros. Je dis, ouais, ça va où ça? Elle me dit, et comme je n'étais pas sûr que j'avais entendu Dieu, j'ai dit, ben donne le même sentiment à Daniel afin que je sache. Je dis, mais on vient de donner 400 euros là. 400 euros, on se marie dans 3 mois. On a donné les 400 euros et les 500 euros. Et on est reparti à la case départ. Et là, Dieu m'a donné une parole par mon grand-père qui a envoyé ça à ma mère. Et ma mère me l'envoie et me dit, Ésaïe 54. Élargis ta tente, raffermis tes cordes. Tu n'auras point honte. Je dis ok. Quand j'ai dit ça à Christelle, elle a dit, bon, moi je vais chez ma mère parce que toi tu es fou. Mais j'étais quelqu'un qui donnait la dîme, qui donnait les prémices. Et je disais non. Et qui se met. On va venir là-dessus après. Je dis, c'est impossible que ça ne marche pas. J'avais la foi. Et j'étais assis sur la parole. Tous les soirs, je prenais Ésaïe 54. Tous les soirs, tous les matins, tous les midis. Et je proclamais. Ma femme, elle regardait que ça, elle dit, aïe, 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 celui-là, là. Mais j'ai honoré Dieu avec ma substance, avec les premiers fruits. Qu'est-ce que ça provoque? Cela montre à Dieu notre reconnaissance envers lui pour plus de croissance. Ça montre à Dieu que nous n'avons pas l'amour de l'argent. Que s'il nous augmente, il peut nous faire confiance. Romains 11, 16 dit, or si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Je vous laisse méditer. Ensuite, nous avons un troisième type de don, les aumônes. Les aumônes, c'est le seul don qui n'est pas fait à Dieu, qui est fait aux hommes. Ce don-là, il est motivé par la compassion. Tu vois un frère, une sœur ou quelqu'un qui est dans le besoin et tu as la capacité de faire quelque chose. Ce qui te motive, ce n'est pas autre chose que la compassion. Et c'est ce qui a motivé Jésus pour nourrir tout ce monde-là. Il avait compassion. Il dit, mais ils ont fait tellement de chemin. Ils sont venus de loin. Comment ils vont faire pour manger? Ils étaient dans le désert. Et la promesse qui est attachée au monde, c'est que Dieu te rembourse ce que tu donnes aux pauvres. Donc tu ne vas jamais t'appauvrir parce que tu as donné à quelqu'un qui est pauvre, à quelqu'un qui est dans le besoin. Ce n'est pas vrai. Tu ne t'appauvris pas. Tu peux distribuer. Pourquoi? Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Proverbe 28, 27. Lorsque donc tu fais l'aumône, Matthieu 6, 2 à 4, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous savez pourquoi beaucoup de campagnes, quand souvent on voit dans les églises ou même sur les chaînes télé, on voit souvent, on montre les enfants en Afrique qui ont faim, etc. Pourquoi Dieu dit dans le secret? Parce que nous devons protéger la dignité des personnes qu'on aide. Il n'y a aucune récompense lorsque nous ne protégeons pas la dignité des personnes que Dieu nous demande d'aider. Aucune. Et nous devons faire très attention à ça. Même quand on fait des levées de fonds pour aider les enfants, etc., nous devons faire très attention de ne pas étaler la misère des autres. Il n'y a aucune récompense. On l'a déjà. Ça y est, on va dire, oh, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est bon, il est brave, il s'occupe des enfants. Super. Mais c'est ça ta récompense. Moi, personnellement, non. Moi, je veux la récompense du Père. Donc, dans le secret, à part ma femme, les gens ne savent pas qui j'ai aidé. Je n'en parle jamais, mais je le pratique. On a fait des choses, donné des voitures, une voiture. On a fait des caddies entiers. Même nous, on ne faisait pas autant de courses. On le fait, ce n'est pas le problème. Mais on ne dit ni la personne, ni quand, ni à qui. Parce que Dieu insiste sur ce point. Protéger la dignité. Vous imaginez, vous aidez quelqu'un, vous êtes très riche, vous avez beaucoup, beaucoup de richesses financières, et vous achetez une maison pour une personne. Waouh, super. Et puis, vous l'étalez. Aucune récompense. Mais imaginez la personne. Les gens passent en voiture et disent « Ah, ça c'est la personne à qui on a donné la voiture, la maison. » On ne laisse pas cette personne, on n'a pas aidé cette personne. On l'a étalée pour notre propre gloire. Donc faire très attention à le monde. C'est d'ailleurs le seul endroit où on va dire qu'on ne peut pas parler des dons. Souvent on entend ça mais on mélange. C'est que pour le monde on ne peut pas parler. Quand je vous parle par exemple des dons que je fais, des semences ou des prémices, je peux en parler. Mais l'aumône, on ne peut pas. Pourquoi? Il faut protéger la dignité de l'individu. La promesse qui est attachée, Proverbe 19, 17, dit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra son œuvre. » Donc, je parle de promesse, mais si je parle comme tout à l'heure avec des mots qu'on comprend, c'est retour sur investissement. Chaque don est un investissement dans le royaume de Dieu. C'est retour sur investissement en réalité, le mot. En anglais, je ne sais pas si je peux trop le dire, mais je le dis quand même. Retour sur investissement. Il y a des taux. Il y a des taux. Le premier, les dîmes. J'ouvre les écluses des cieux. Ça veut dire quoi? Je te donne des opportunités. Tu donnes la dîme, je prends soin que tu ne manques pas d'opportunités. Et ça veut dire que tu vas les saisir? Pas forcément, mais ils seront là. Je te donne les opportunités. Tu ne travailles pas, tu crois que tu vas manger? Non. Oublions. C'est ça qu'après, je veux être clair là-dessus parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur l'évangile de prospérité. Ce n'est pas ça. Là, c'est juste la Bible. Le but, c'est que nous puissions rentrer dans la nouvelle saison avec les armes pour combattre. Parce que les saisons qui arrivent, ce n'est pas facile. On se rapproche de la fin des temps. Donc il n'y a rien qui s'arrange. Croyons pas que tout d'un coup, les choses vont s'arranger. On va mettre le SMIC à 2000 euros. C'est une parenthèse. Une parenthèse. Je suis chef d'entreprise. On m'oblige de donner 1000 euros, d'augmenter le SMIC. Mais je dois augmenter mes prix. Donc, les 100 euros que je t'ai donnés, tu vas aller au boulanger. Si la baguette de pain était à 1,10 € et qu'elle passe à 1,30 €, si le carburant monte, si tout le monde, mais les 100 euros, tu les as avalés, tu n'as rien compris. Parenthèse fermée. Je ne dépends pas du système de ce monde, je dépends du système du royaume de Dieu. Et ce message n'est pas pour celui qui dit qu'il est chrétien, c'est pour celui qui est citoyen du royaume de Dieu. Parce que Dieu nous appelle à transformer la France, la francophonie. Et ça ne se fera pas seulement avec des prières. Il y aura des prières qui sont nécessaires pour activer, mais il y aura aussi des ressources qui seront nécessaires. Personne ne vient des États-Unis, du nord de la France, en volant, si ce n'est dans un avion. Il faut payer le billet d'avion, le billet de train, l'essence. On aime avoir des hommes de Dieu, mais il faut payer pour qu'ils puissent venir. Maintenant, il y aura un temps peut-être où dans l'esprit, on n'y est pas encore, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis, il y a le dernier. Donc, le taux d'échange, le taux, pour parler dans les termes qu'on comprend, c'est que Dieu dit, celui qui a pitié du pauvre, pas seulement une pitié des lèvres, une pitié qui est ajoutée avec une compassion et qui pose un acte. L'epso pose un acte. La Bible dit quoi ? On lui rendra selon son œuvre. Pourquoi ? Afin que ça puisse continuer à être présent. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit, il y aura toujours des pauvres parmi vous. Donc, il faut les aider. Amen. Elle a compris ? Elle a compris. Donc, soyons... le monde, c'est une des choses qui touche le cœur de Dieu. Il est dit dans la Bible, la vraie religion, c'est s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Ceux qui sont dans des situations précaires parce qu'il y a eu des situations qui ont fait que la vie devient bancale, on ne sait plus trop. Et dans l'ancien temps, quand le mari mourait, la femme et les enfants, s'ils devaient quelque chose, devenaient esclaves. Et le seul moyen de les protéger, c'était de les donner ce que le mari apportait afin qu'ils ne deviennent pas esclaves. Ok. Dernière, la semence et l'offrande. La motivation, la promesse de la récompense. C'est ici maintenant où on rentre, entre guillemets, dans les gros sous. Là où Dieu nous pousse. C'est vrai, nous devons donner avec un cœur joyeux, etc. Il y a un proverbe qui dit que ceux qui sèment dans les larmes récolteront dans la joie. Donc, il y a des moments de semence où ça coûte. Je vais vous en donner un qui m'est arrivé dans cette église en 2012. Je n'étais pas encore parmi vous, mais Dieu m'a montré déjà des choses. Sachez, 2 Corinthiens 9,6, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Semence récolte. Semence récolte. Si quelqu'un qui plante des maïs va prendre ses graines de maïs et les met dans le sol et qui dit « Oh, j'aime l'agriculture » et il s'en va, on va dire « Mais tu as mis toutes ces graines et tu ne t'attends pas à ce qu'il y ait une récolte ?» Non, mais nous-mêmes, réfléchissons 2 minutes. Oui, on fait les choses par amour pour Dieu. C'est la base. Sans l'amour, tout ça, ce n'est rien. Mais est-ce que nous nous attendons à une récolte ? Est-ce que nous semons en conscience que Dieu va nous donner une récolte ? Spirituelle d'abord, mais matérielle aussi. Pas pour que nous ayons 5 télés, 5 voitures, ce n'est pas le but. On reste dans une sagesse de Dieu. On veut faire une conférence, inébranlable par exemple. Est-ce que vous connaissez la pression financière qu'il y avait sur cette conférence ? Qui connaît? À part les leaders. Nous, on arrive, wow, c'est super, ce qu'ils font à clé, c'est génial. Où est ta participation? Moi, je ne suis pas pasteur, donc je peux parler. Je peux parler. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas français. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas grandi en France. L'argent, ce n'est pas tabou pour moi. Ce n'est pas tabou. Je n'ai pas grandi ici, moi. J'ai aucune honte à l'argent. En parenthèse, ce que tu rejettes, tu ne peux pas avoir. Tu ne peux pas dire l'argent, c'est pas bon, c'est mauvais, et l'avoir. Ça va te fuir tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie, ça va te fuir. L'argent, c'est un mauvais maître, mais c'est un très bon serviteur. Très bon serviteur. Mais il faut qu'il reste serviteur. Ton esclave. L'argent, c'est mon esclave. J'ai un esclave, c'est l'argent. Moi, je ne suis pas esclave de l'argent. L'argent est esclave de moi. Il fait ce que je lui dis de faire. C'est là où ça se joue. Parce qu'on confond tout, mais on ne prend pas la parole pour regarder. Proverbe 11, 24, 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Les pixous. Non, mais sérieusement. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Je vis ça. Moi, on m'a payé mes courses de Noël la semaine dernière. Je pouvais les payer. On les a payées. Je n'ai pas dit non, j'ai dit merci. J'ai eu des bons d'achat de 150 euros pour payer mes courses de Noël. Je peux les payer. On peut les payer. Mais est-ce que c'est mauvais qu'on te les offre? Non, ça réjouit. C'est un cadeau, tu prends. Il faut apprendre à recevoir. Hein? Luc 6, 38. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Là, je veux chasser l'esprit de pauvreté. Parce qu'il y en a, ça suffit. Ça suffit. Qui est premier dans notre vie? Qui est celui qui est au-dessus de tout? C'est pas Dieu? Voilà sa parole. Ceux qui m'aiment, c'est ceux qui suivent mes commandements. Donc tu ne peux pas dire tu aimes Dieu si tu ne suis pas les commandements. Chacun dit ce qu'il a à dire. Voilà. La promesse de la semence, de l'offrande, c'est la multiplication. C'est-à-dire que on ne peut pas échapper aux dîmes. Si tu dis je vais donner une offrande, ça devient une dîme si tu n'as pas donné ta dîme. Dieu est logique. D'abord la dîme, c'est la base. Imaginez, vous prenez votre argent pour payer votre assurance et vous dites, ah, il y a le voisin qui est dans des problèmes, je vais prendre l'argent de l'assurance et je lui donne. Ta maison brûle. Tu fais quoi? Pas d'assurance. Alors que s'il a des problèmes, tu es dans une assurance, tu es assuré, qu'est-ce qui se passe? Tu peux maintenant aller l'aider. Il y aura toujours un surplus. Mais si tu déshabilles la dîme pour dire je vais faire l'aumône, alors Dieu va te le rendre. Hein. Mais il ne chasse pas celui qui dévore. Ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas prié pour que celui qui dévore ne vienne pas prendre mes affaires. Je ne prie plus pour ça. C'est lui qui le fait. Pourquoi je vais aller faire le travail de Dieu? Il dit c'est moi qui chasse celui qui dévore. Pourquoi je vais aller faire des prières pour chasser celui qui dévore alors que Dieu dit c'est moi qui le fais? Ça c'est établi chez moi. D'ailleurs, même si quelqu'un vient chez moi et prie comme ça, je dis attends, lisons d'abord la Bible. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas d'épreuves? Si. Mais Dieu prend soin de moi. Il chasse celui qui dévore. Pour illustrer un peu, après, on va regarder le don de libéralité qui est encore maintenant un autre. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a les violents. Il y a le don de libéralité là-bas, c'est un autre niveau. Mais Voyez, d'où nous venons, je pensais parce que le pasteur était au Bénin, donc il sait, mais d'où nous venons, ce n'est pas toujours simple. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas simple qu'on a plus de foi ou pas, ça n'a rien à voir. À chaque mesure, à chaque niveau, il y a une mesure de foi. Vous pouvez vous dire, non, mais en France, ça ne marche pas parce qu'ici, on a déjà tout. Non, c'est que les gens n'essayent pas de suivre la parole sur ces principes-là. Mais ça marche, puisque je vis en France. En 2012, j'étais ici, il y avait une conférence, et ça m'a fait penser parce qu'à la réunion de CE, on a parlé du pasteur Yvan Castanou. Et j'étais ici, je visitais l'église parce que bon, je venais de lire un des livres du pasteur Yvan. Et donc j'ai dit, je vais aller à la conférence pour voir. Et il s'avère que quand je suis arrivé en France, à un moment, je passais des moments un peu difficiles en train d'apprendre ce que c'est qu'être un homme. Et j'ai fait une promesse à Dieu. Je dis, j'avais en moi ce sentiment d'honorer Dieu, de lui donner mais au-delà de mes capacités. Et j'ai dit au Seigneur, que veux-tu que je te donne? Ce qui sera une marque dans ma vie? Il m'a dit, fais-moi une offrande de 1 000 euros. J'avais une bourse de 575 euros. J'ai fait le chèque et il m'a dit, laisse-le dans ta Bible. Au moment où je te dirai, tu feras le don. Je dis, ok. Là, on rentre peut-être dans les dons de libéralité, les choses. Et donc, il faut savoir que, donc, comme je dis, d'où on venait, on a certaines pensées, on voit la misère aussi au-dessus, devant nous tous les jours, même si on était dans une capsule où on était dans l'abondance. Après, tu dis, oui, mais je ne peux pas aider tout le monde. Tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, ça avait développé en moi, je dirais, un esprit de manque. Et si je manque, qu'est-ce que je fais? Et si je ne peux pas payer, je fais comment? Vous voyez, vous connaissez ça? Vous connaissez? Il n'y a pas que moi. Et j'arrive dans un pays de droit où si tu ne payes pas ton loyer, on t'envoie un courrier. Je ne connaissais pas tout ça, je découvre. Mais j'avais juste une arme, la dîme. Et en découvrant certains principes, je dis, ah, mais moi aussi je veux faire, Seigneur. Donc il me dit, fais ce chèque, mets dans ta bulle, au moment convenable, je te dirai. Je dis, ok. Je l'ai gardé de 2003 à 2012, ce chèque. Ah, j'étais violent, hein, je suis encore. Et donc je dis, Seigneur, mais quand est-ce que je pourrais faire? Il me dit, pas maintenant. Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Il me dit, donne ta chaîne IFI. Je dis, ah! Le rêve de ma jeunesse. Kenwood, 5 CD. Le truc, quoi, la boombox. Il dit, donne. Je dis, ah! Non, donc l'histoire-là, c'est ça blague pas. Il t'attrape là où ton cœur... Là où ton trésor est, ton cœur est. Et moi, je disais, Seigneur, je veux que mon cœur soit dans ta maison, que mon cœur soit dans ton œuvre. Vous savez les prières qu'on fait, qu'on ne pense pas à ce que ça va nous coûter. Moi, je voulais faire le lover de Dieu, quoi. Oh, Seigneur, tu sais que je t'aime, tu sais que je ferai tout pour toi. Donne ta chaîne IFI. Je dis, ah, Seigneur, j'ai pris une douche de... Je suis allé sous l'eau tellement ça me chauffait la tête. J'ai pris une douche de... Sans mentir, une douche d'une heure. Je suis là, mais Seigneur, je ne peux pas. Je venais de la voir. Et j'ai dit, je ne sortirai de là que quand j'aurai obéi la parole que Dieu vient de me donner. Et il m'a fallu une heure pour une chaîne IFI. Pour une chaîne IFI. D'occasion. Parce que je voulais ça. La provision surnaturelle. Vivre les choses surnaturelles. Payer aider les ministères. Pourvoir des voitures pour les pasteurs. Pour tout ça, c'est mon cœur. Parce que celui qui sert Dieu, celui qui nous enseigne mérite une double part. On est responsable. Vous êtes responsable, je suis responsable. Nous devons prendre soin de nos bergers. Et je voulais vivre ça. Je dis, ah. Donc, au bout d'une heure, je décide, je dis oui, j'appelle le gars. Il me dit, ah super, il n'est même pas venu pendant 6 mois, j'avais envie de le... Bon. Je donne. Et il s'est passé en moi quelque chose qui c'était comme si c'était possible de donner. J'ai appris. J'étais encore dans le manque, hein, mais j'ai appris. Et puis, le temps passe, je me marie, je dis quand même à ma femme, écoute, il y a un moment, il y a un chèque de 1 000 euros qui va partir. Je ne sais pas quand, mais c'est prévu. Et en 2012, on passe des moments assez particuliers dans les finances où on se remettait d'un moment difficile, d'une entreprise qui n'avait pas fonctionné. Et puis, je sens que ça commence à monter. C'est-à-dire là, maintenant, je travaillais, j'étais salarié, j'étais au SMIC avec des paniers repas, ça me faisait 1 200 euros par mois. Je dis, OK, super, j'étais content. Quand tu n'as rien, tu as ça, c'est super. Et puis, au mois de février, je crois, c'était, on m'apprend, donc il y a Pasteur Yvan qui vient. Et puis, j'étais assis là, derrière l'avant-dernière rangée. Et il était ici, en train de bombarder dans l'esprit prophétique, tout ça. Et là, j'entends Dieu dire, maintenant. Je dis, ah! Maintenant. Je dis, maintenant? Et là, je me dis, bon, peut-être que ce n'est pas moi. Donc, peut-être c'est moi. Je parle à ma femme qui m'a rien fait. Ben, fais-le. Elle ne m'aide pas. Moi, je veux qu'elle me dise, écoute, on va en parler, on va prier. Donc, on revient à la séance du soir. Je rentre à la maison, je prends le chèque, je signe 1 000 euros. Je viens de percevoir mon salaire de 1 250 euros et 10 centimes. Et je me dis, mais comment je vais faire? Pourquoi? Je me pose toutes les questions. Et donc je me dis, non, mais c'est peut-être pas Dieu. Mais si c'est Dieu, je prépare le chèque au cas où, je l'emmène avec moi. Mais je ne le signe pas tout de suite parce que je peux me rétracter, parce qu'on ne sait jamais. Et je suis assis là-bas, et tout le long, le pasteur Yvan prend le micro. Et au moins, il prend le micro, la présence de Dieu tombe sur moi. Je sais que c'est Dieu, mais je combats encore. Je combats parce que ça arrache les tripes. Ça, c'est maintenant semer avec larmes. Parce qu'il y a des obligations derrière. Et je suis là-bas, je transpire, littéralement. Je transpire, j'ai chaud, les oreilles sont chaudes. Je ne sais pas, j'ai envie de vomir. Je me dis, on n'arrive pas là où on est par hasard. Je regarde ma femme, mes parents qui étaient là aussi, ils me disent, mon père, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon. Donc, je me lève et ma femme dit, vas-y, maintenant. Parce que si tu attends, tu ne le feras pas. Je me suis levé pendant qu'il prêchait, je suis venu, j'ai posé une enveloppe ici, là, là. Je suis allé m'asseoir, au moment où je me suis assis, Dieu m'a dit, l'esprit de manque te quitte maintenant. 2012, février. Depuis ce jour-là, il n'y a rien que j'ai demandé à Dieu que je n'ai pas obtenu. Parce que ça a marqué ma vie, ça a été un acte de foi. J'ai pris tout ce que j'avais reçu, presque tout ce que j'avais reçu ce mois-là, et je donnais à Dieu. J'ai dit, OK, maintenant, tu sais que là, I'm in business. Je ne suis pas là pour rigoler, Seigneur. Maintenant, tu sais. Je sais que toi, tu savais, mais moi, j'avais besoin de savoir. Je ne savais pas trop. Cette même année, mon deuxième fils est né. Ça a été une joie. On a dû déménager. Je n'avais pas le salaire, puisque j'allais me mettre si, j'avais le salaire, mais j'allais me mettre à mon compte quelques temps après, donc je ne savais pas trop, j'en avais parlé, c'est des amis qui avaient une agence, donc ils savaient un peu ma situation. Et je discute avec l'agence, et l'agence dit, il y a des travaux. Je dis, oui, je sais faire. Et il me dit, mais il faudra juste que tu vois avec le propriétaire. Je dis, ah, très bien. J'appelle le propriétaire, je lui dis, ben, écoutez, moi je suis prêt à faire des travaux, voilà ce que je vous propose. Vous n'engagez rien, pas de frais, rien. Vous m'enlevez juste les loyers. Il me dit, OK, je vous enlève 7 mois de loyer. Sept mois de loyer. On est parti à La Réunion, en vacances, grâce à tout ça. Une offrande. On est parti à La Réunion, en famille, s'il vous plaît. Dieu a pourvu. Dieu a pourvu. J'ai continué à donner mes dîmes, mes offrandes, mes prémices, tout. Je donne, je sais. Je ne le fais pas pour recevoir, mais ça fait partie du package. Tu dois recevoir. Si tu donnes à Dieu, la Bible dit, Dieu n'est redevable de personne. Il n'est redevable de personne. Tu ne peux pas donner plus que Dieu. Il va toujours te prêter. Il est devant toi. Donc, cette année-là, ça a été une année bénédiction. Je finis dans la boîte où je travaillais Et puis, je vais faire une formation, parce qu'on me dit qu'il faut faire une formation, tous ces trucs-là. Et puis, on me dit, mais monsieur, votre cas est un peu particulier. Je dis, ah bon, pourquoi? Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont me dire maintenant? Ils me disent, mais c'est comme si il faut qu'on se parle après. Donc, je dis à la dame, oui, pas de problème, j'attends que tous les autres chômeurs parmi nous qui étions là bon, s'en aillent. Et puis, il y a une dame qui reste à côté aussi, parce qu'elle veut savoir ce qu'on va me dire. Et la dame me dit, il y a encore une loi qui passe là, et elle ne va pas durer longtemps. Mais comme votre chômage va démarrer, parce que la boîte où j'étais allait fermer, on me dit, mais si vous démarrez votre auto-entreprise avant, vous aurez droit de cumuler votre chômage et ce que vous gagnez dans l'auto-entreprise. C'est d'où je viens. Quand tu donnes, tu prends. Peut-être vous vous laissez, moi je prends. Je dis d'accord, j'ai vérifié que c'était légal. J'ai posé des questions. Et puis, je fais tous les papiers. Ça, c'est l'année 2012. Hein. Je fais tous les papiers. On me dit effectivement que j'y ai droit. Mais moi, je n'y crois pas encore. Parce que j'ai pas lu ça dans la Bible. C'est quelqu'un qui m'a dit, c'est des papiers qui m'ont dit. C'est le monde qui a dit. Donc, je dois vérifier quand même là. J'attends. Et puis, je commence à travailler. Je commence à gagner de l'argent. Et puis, je dis au client, je dis, attendez le mois prochain pour me payer. Parce que je vais d'abord mettre une partie. Parce qu'on ne sait pas si je mets l'argent que c'est beaucoup. Parce que je ne m'attendais pas à gagner tout ça. Vous imaginez, je gagnais 1200 euros et en une semaine, je quadruple mon salaire. Sur une semaine de travail. La bénédiction de Dieu enrichit, n'ajoute pas de chagrin. Donc, j'encaisse une partie, je dis, on attend. Je dis au client, attendez, je veux vérifier qu'ils vont me donner d'abord mon argent. Et ça se passe. Et je passe une année comme ça où tout ce que j'ai perdu dans l'entreprise précédente, Dieu me le donne en un an et demi. Tout ce que j'avais perdu. Pourquoi? Les principes. Les principes. Le mariage, pareil. Cette année, j'ai dit au Seigneur, je dis, Seigneur, je suis à l'école destinée à Paris. Ça, c'est déjà un miracle. Parce que ma femme faisait l'école d'ici. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi j'allais à Paris. Mais c'est que je ne pouvais pas faire l'école le même week-end, puisqu'elle s'occupait, je devais m'occuper des enfants. Et j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi j'ai fait toutes les autres conférences? J'aurais jamais dû faire, j'aurais dû laisser ma femme aller parce que c'est ça que je voulais faire. C'est exactement ce que j'avais besoin, c'était ça. Et j'étais là tous les week-ends, je venais ici des fois, je me mettais à la porte pour écouter ce que le pasteur Steve et le prophète Bruno disaient. Je me mettais là-bas, j'avais soif d'entendre ça. Pasteur Steve me dit, viens le faire à Paris. Je regarde, je dis, mais une fois par mois à Paris? Je dis, Paris? Non, mais Paris, la Tour Eiffel, Paris, train, avion, hôtel. Je calcule dans ma tête, je me dis, ça, c'est un billet de 300, 400 euros. Je trouve ça où? Je viens de redémarrer mon entreprise quand même. Ma femme ne travaille pas avec rémunération, puisqu'elle travaille avec moi dans l'entreprise. Je commence à trouver toutes les excuses. Dieu dit, n'oublie pas 2012, la semence, elle parle encore aujourd'hui. Donc je dis, ok, c'est même pas moi qui ai dit, c'est ma femme qui a dit, oui, va faire. Je dis, ah, si elle a la foi, c'est que, bon, il faut suivre. Donc du coup, je regarde, je calcule, 400 euros par mois que je dois sortir pour aller sur Paris. J'ai pas. J'ai une épargne, une petite épargne, je dis bon, pour les coups durs, je dis bah, je vais prendre ça pour le mois qui arrive et puis on verra après. Donc je monte à Paris, je reviens, je dis waouh, ok. Et le mois prochain, on fait comment maintenant, Seigneur? Le Seigneur me convainc d'appeler mon comptable et je lui dis rajouter 400 euros sur mon salaire. Il dit comment 400, mais tu vas trouver où? Je dis non, rajouter. Je dis Seigneur, je reviens sur la semence que j'ai portée. Tu as dit que tu multiplierais. Je reviens sur la semence. La semence parle. Tous les mois, pendant un an, j'ai toujours eu un client qui venait à la dernière minute, qui me donnait ce qu'il fallait pour avoir les 400 euros avec les charges pour tout payer et partir à Paris. Pendant un an. Non, faut pas applaudir. Faut pas être jaloux. Faut applaudir. Faut pas être jaloux. Dieu pourvoit. Ça, je fonctionne avec ça. Je me mets dans mon bureau quand j'ai pas de clients. Il m'arrive des fois de ne pas savoir ce que je vais faire dans 3 semaines. Et je veux donner. Et je veux soutenir le ministère. Je m'assieds et je dis, Seigneur, J'appelle le vent du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, qui doit m'amener toutes les opportunités pour accomplir ma destinée. Je les appelle maintenant à manifestation. Ça se passe. À cause de quoi? De cette parole. Je suis arrivé ici, j'ai vu le bâtiment, j'ai dit, mais il faut faire quelque chose. Je suis allé voir le pasteur, j'ai dit, il faut faire quelque chose. Je vous dis sincèrement, on a fait les peintures déjà. Pas pour que... J'étais pas seul. Mais si je devais le faire avec l'entreprise, c'était 10 fois le prix qu'on a utilisé là. Mais j'ai dit, je ne sais pas si Philippe est là, il est venu me voir. Il me dit dimanche après-midi, non, mais moi, je ne peux pas. Il me dit, mais moi, il faut venir la semaine. Il dit, oui, mais on travaille la semaine. Je dis, oui, mais je ne peux pas donner quelque chose à Dieu qui ne me coûte pas. C'est un principe de vie. Je ne peux pas venir dans mon temps de repos dire, je vais faire ça, je vais faire ça. J'ai pris une semaine off et je payais un salarié. Je dis, reste chez toi. Je suis venu, j'ai bossé ici. Il y en a d'autres qui sont venus. Parce que c'est ma maison. Je suis ici, c'est ma maison. C'est ta maison. C'est ma maison. Donc je me suis donné. Il y avait Yann, il y avait Philippe, il y avait David, il y avait du monde. Et on s'est donné, et on a donné. Pourquoi? Parce que c'est notre maison. Comment on manifeste l'amour envers Dieu si on ne donne pas? Quelle est ta part? Chacun a ce qu'il peut faire, mais que fais-tu? Le don de libéralité te pousse à aller au-delà de tes capacités par la foi. Je ne dis pas faire des choses insensées, mais faire comme moi, dire, Seigneur, je promets, je te fais une promesse. Si tu peux, et si tu es sérieux, fais ta promesse. Pourquoi? Parce que, quand on regarde par exemple dans Philippiens 4, 17, on ne va pas le lire parce qu'on n'a presque plus de temps, mais on entend cette phrase qu'on entend souvent, et Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Voilà. Si tu ne donnes pas, tu n'es pas concerné. Paul parle aux Philippiens du témoignage qu'ils avaient auprès des Macédoniens, je crois, et disait, vos dons, vous avez participé à l'évangile avec moi. Ça veut dire quoi? Ils ont prié? Non, ils ont donné. Ils ont soutenu Paul avec leur substance pour que Paul puisse voyager faire le ministère. Et là, Paul dit, pas votre Dieu, parce que je ne suis pas sûr de votre Dieu. Moi, je suis sûr du mien. Et mon Dieu pourvoira selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Merci. Pas ton Dieu, celui de Paul, celui que lui connaît, celui qui pourvoit, celui qui le sort du naufrage, celui qui le guérit quand le serpent le mord, ce Dieu qui fait des miracles. Parce qu'il n'est pas sûr de ton Dieu dans ta façon de comprendre Dieu. Donc il a dit, mon Dieu pourvoira. C'est pas pour tout le monde ça. On le dit et c'est vrai, moi aussi je l'ai dit, je l'ai pensé. Mais quand tu lis, tu vois que ça s'adresse à ceux qui sèment pour l'élargissement de l'évangile. Nous devons prendre au sérieux que Dieu nous a donné un mandat pour que l'évangile soit prêché. Je ne donne pas au ministère parce que je veux juste recevoir. C'est d'abord l'amour de la volonté de Dieu. Dieu veut voir que tout le monde soit rassemblé et que tout le monde revienne à lui. Les gens qui voyagent, qui se donnent un mal fou pour propager l'évangile, qui ne dorment pas pour pouvoir se recevoir de Dieu, pour que nous, on puisse être bénis. Quand je vois ça, je sème. Quand je vois ça, je sème. La récompense, on ne peut pas la quantifier. Une bénédiction. Une bénédiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans... C'est pas les chrétiens qui vont être bons avec vous. Même le monde va fléchir et être bon avec vous. Moi, j'ai des clients qui me voient, qui me disent, mais on veut te faire travailler, on ne sait pas pourquoi. Ça arrive tellement de fois. Tellement de fois. Pourquoi ça ne peut pas arriver? Ça ne peut pas vous arriver. Pourquoi? Ce matin, pendant que je priais, Dieu m'a dit, dis-leur. C'est quand la dernière fois que vous m'avez offert un foie gras? C'est les fêtes. Un bon foie gras, c'est un peu de pépette. C'est quand la dernière fois qu'en offrande, hors des dîmes, vous m'avez offert un foie gras? un chapon. C'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois que vous êtes venu dans ma présence et vous n'avez pas jeté des pièces alors qu'il y avait un petit billet dans la poche? En anglais, on dit « we mean business ». On n'est pas là pour rigoler. Je veux vraiment vous interpeller là-dessus. Pourquoi? Parce que la saison qui arrive n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Le temps arrive où Dieu va séparer le blé de l'ivraie, où il va séparer les brebis des chèvres. Je n'ai pas dit que vous êtes des chèvres. Je dis juste que les brebis, celles qui entendent la voix du Père et qui la reconnaissent et qui suivent ses commandements, vont être distinguées. Il faut qu'on se positionne aujourd'hui. Que l'esprit de misère quitte. Pourquoi? Parce qu'il y a un mandat à accomplir. La fin des temps arrive. Le message du royaume de Dieu doit être prêché et être démontré. Et vous devez aller le démontrer. C'est quand la dernière fois qu'on a vu des signes, des prodiges et des miracles? Soyons clairs, ce n'est pas une parole de condamnation. Mais c'est quand la dernière fois qu'on a vu des signes, des prodiges et des miracles au milieu de nous? Parce que le cœur n'est pas dans les affaires de Dieu. Et Dieu dit, repentez-vous, revenez à moi. L'argent, c'est un révélateur. Les dons, ce sont des révélateurs de où est notre cœur. Prenons le temps de méditer sur cette parole. Elle est là pour notre enseignement, pour notre croissance, pour notre bénédiction. Parce qu'il y a tellement de choses cachées qu'on ne voit pas parce que nous sommes voilés. Un jour, je parlais avec mon père spirituel, le pasteur Emmanuel, et il me dit, tu sais Daniel, Dieu m'a emmené au ciel et j'ai vu un hangar où il y avait des bras, des pieds, des yeux. Un hangar plein. Et il a vu un ange, il dit, mais pourquoi c'est plein? Il dit, parce que les gens ne demandent pas. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas ou parce qu'on demande mal. Je suis concerné. Nous sommes tous concernés. Nous pouvons tous faire un pas de plus, un pas de foi. La générosité appelle le miracle. Quelqu'un ne peut pas parler de la part de Dieu s'il n'est pas généreux. Ou alors ça n'aura pas d'effet. Tu vas parler avec tes collègues, mais tu leur as jamais offert un café. Toujours en train de compter les centimes. Tu n'as jamais offert un repas. C'est quand la dernière fois que tu as offert un repas à quelqu'un, juste pour l'honorer, juste pour l'encourager? C'est quand la dernière fois que tu as invité quelqu'un à Noël pour partager le repas? Quelqu'un qui ne te ressemble pas. Dieu nous interpelle. On peut faire Noël, acheter plein de cadeaux, faire ça, mais c'est quand la dernière fois qu'à Noël, on a pris le temps de lire la Bible et de rappeler à nos enfants l'histoire de la naissance de Jésus? La générosité manifeste le cœur de Dieu, exprime le cœur de Dieu. Quand on est généreux, on aime. Et parce qu'on aime, on est automatiquement généreux. Si quelqu'un dit qu'il aime sa femme et qu'il ne fait jamais un compte avec elle, il ment. Il doit se repentir. Si on dit qu'on aime Dieu, apprenons à donner. Apprenons à donner. On va baisser la tête et on va se remettre en question. Le but n'est pas de condamner ou d'accuser qui que ce soit. Le but, c'est de réfléchir à la parole, méditer et connaître le cœur de Dieu. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Parce qu'il voulait la vie éternelle pour nous. Apprenons à nous donner. Apprenons à servir Dieu. Que tout ce qui touche à Dieu ressemble à Dieu.